Quand tu veux, hein.
Oui,
c'est bon. Ok. Bon, bienvenue. Merci de vous être déplacé à 9h du matin pour écouter donc ce que j'ai à dire. 1780-1833, la longue marche vers l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique. Donc en français dans le texte cette fois pour les étudiants qui ont plus l'habitude de m'entendre en anglais. Si je fais une erreur de français, ne me le faites pas remarquer, j'ai horreur de ça. L'abolition de l'esclavage, pourquoi en parler, hein? Parce que tout le monde sait qu'il y avait de l'esclavage, et puis les gens sont devenus plus intelligents, alors ils l'ont aboli, parce qu'ils sont devenus plus gentils. C'est ça, non, l'explication historique. Et bon, vous doutez bien que ça suffit pas comme explication, même c'est entièrement faux. Alors on va essayer de voir quels étaient les différents facteurs qui ont réussi à aboutir à l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique donc en 1833. Alors déjà, pourquoi cette période 1780-1833, c'est que à partir de 1780, il y a les premiers mouvements en Angleterre contre l'esclavage. Et si vous faites le calcul, je sais que vous n'êtes pas des matheux, mais vous faites le calcul, il y a quand même 53 ans, là, bienvenue, il y a même 53 ans, là. Il faut les faire, les 50 ans les 53 ans de campagne. Surtout qu'au début, ils ne savaient pas qu'ils allaient gagner. Alors, il faut quand même essayer de se mettre à la place des gens qui, décennie après décennie, se sont mis en tête que c'était possible d'abolir cette institution. Alors, ce mouvement a donné lieu à la première utilisation de masse en Angleterre des pétitions. Aujourd'hui, les pétitions, on en voit sur Internet régulièrement. Ça a été inventé à un moment, hein, et les premières utilisations massives nationales dans tout le pays, c'est dans ce mouvement. C'est aussi le tout premier boycott organisé. Le mot n'existait pas. Le mot n'existait pas, boycott, pour l'instant. C'est inventé plus tard par rapport à Monsieur Boycott. J'ai oublié dans quelles circonstances. Et troisièmement, ce mouvement contre l'esclavage, c'était les premières marches sur Downing Street, les premières manifestations qui se sont rendues devant la porte du Premier ministre qui, à l'époque, on pouvait accéder, même il y a 30 ans, en fait, on pouvait aller jusqu'à la porte de Downing Street. Il y avait un policier qui était là. Sans armes. Ce n'est plus le cas. Maintenant, il y a toute la rue maintenant est bloquée. Mais voilà, ce mouvement a donné lieu aux tout premières marches. Et aussi, ça reste, même si ça fait longtemps, ça garde une certaine actualité. Tony Blair, donc il y a, ça doit faire 10 ans maintenant, s'est officiellement excusé pour le rôle de la Grande-Bretagne. Bon, on peut dire que ça lui a pris du temps, que ça a pris du temps à l'été britannique. Quand même, il y a eu des excuses officielles. Et aussi, la même année, je pense que c'est 2006, excuses officielles de l'Église d'Angleterre. L'Église d'Angleterre, je vais en parler un petit peu, qui était dans une situation tout à fait contradictoire, parce que d'un côté, il y a une partie des Anglicans qui font campagne contre l'esclavage, et de l'autre côté, l'Église d'Angleterre avait de grandes plantations avec des esclaves et qui en profitaient énormément, qui ont fait des millions de dollars. Bon, à l'époque, c'était plutôt des livres à cette époque. Alors, on commence par deux dates. Je veux pas mettre trop de dates pour ne pas compliquer l'histoire, mais les deux dates clés, c'est 1807 et 1833. 1807, donc abolition du commerce des esclaves. Il n'était plus légal d'acheter ou de vendre, ou surtout de transporter des esclaves kidnappés en Afrique vers le Nouveau Monde. Bien sûr, pour les abolitionnistes, l'abolition du commerce est le premier pas pour aboutir à l'abolition de l'esclavage. Mais pas pour les esclavagistes, eux, au contraire, ils pensaient si on abolit le commerce des esclaves, comme ça, l'esclavage, ça peut rester comme institution, ce serait moins menacé. Donc, voilà les deux dates clés. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller au musée à Liverpool, très bon musée de l'esclavage à Liverpool, en tout cas une section à l'intérieur du musée Maritime Museum. C'est le meilleur musée à voir au Royaume-Uni sur le sujet. N'empêche qu'il faut remarquer la date, ça a été ouvert en 2007. Encore une fois, on ne peut pas dire qu'ils étaient excessivement pressés pour expliquer cette histoire. L'équivalent français, c'est à Bordeaux, dans le musée de... Comment ça s'appelle? Le musée de l'Aquitaine. Ils ont une grande section sur l'esclavage, très très bon, ouvert en 2010, je crois. Mais je ne suis pas absolument sûr. Voilà, alors regardons voir tout d'abord l'esclavage et puis les facteurs menant à son abolition. Alors, ça remontait. L'Angleterre était impliquée dans le commerce des esclaves à partir du 16e siècle, du milieu du 16e siècle. Et on était devenu un des acteurs les plus importants. Ça, c'est une image d'époque. Bon, je veux dire, un dessin d'époque. Il y avait eu, bien sûr, l'esclavage avant cela. Mais l'esclavage dit atlantique a quelque chose de tout à fait particulier. Tout d'abord, c'est le transport massif et lointain. Et c'est le seul cas d'esclavage où le processus a réussi à éliminer, à détruire les langues et une bonne partie des cultures des kidnappés. C'est-à-dire, c'était fait exprès, quand on envoyait un lot d'esclaves, on mélangeait des gens qui parlaient des langues différentes, ça rend la résistance plus difficile. Donc c'est vraiment une destruction culturelle qui est tout à fait spécifique. Je ne vais pas passer trop de temps sur les conditions inhumaines qu'on peut regarder 12 années une esclave pour, si on veut des images. Si on se révoltait, on risquait de mourir très lentement. Et aussi, il y avait vraiment tout simplement l'idée qu'il ne s'agit pas d'être humain. Alors, il y a de nombreux cas où les esclaves sont jetés à la mer parce que pour différentes raisons, ça arrangeait le propriétaire de demander l'argent aux assurances. Voilà, finalement, ils allaient être en retard, donc ils n'allaient pas pouvoir les vendre, alors les jeter à la mer, et comme ça, ils avaient la valeur prix des assurances. Ce genre d'inhumanité était tout à fait courant. Alors, c'est un peu plus tard, donc on commence vers 1550, mais ça va en s'accélérant. Au cours du XVIIIe siècle et on estime qu'entre 1700 et 1807, donc les marchands britanniques ont transporté autour de 3 millions d'Africains d'un côté de l'Atlantique à l'autre. Tout d'abord aux Antilles. Et puis en Amérique du Nord, bien sûr, encore colonie britannique jusqu'en 1776. Alors les colonies étaient un marché pour les produits manufacturés au Royaume-Uni et des sources de matières primaires, surtout le coton, le sucre et le tabac. Alors ce sont trois produits qui sont tellement courants qu'on oublie l'importance. Le coton a transformé la vie de l'essentiel de la population européenne. C'est-à-dire que ça donnait la possibilité, ça donnait la possibilité que tout le monde porte des sous-vêtements. Alors ça, c'est un côté rigolo, mais c'est un côté surtout qui réduit le nombre de morts par maladie massivement. Le coton, ça fait augmenter l'espérance de vie des gens en Angleterre, par exemple. Le sucre, aujourd'hui, on a du sucre dans notre boîte de cassoulet. On oublie l'importance du sucre. Le sucre était cher. Dans un premier temps, c'est réservé à l'élite. Et puis, ça se généralise justement au cours de ces siècles-là. Et bon, même aujourd'hui, si on essaie de vivre entièrement sans sucre, on voit que c'est pas si facile que ça. C'est un marché extrêmement valable. L'équivalent aujourd'hui, ce serait la puce électronique, quoi. C'est comme s'ils contrôlaient tous les téléphones mobiles du monde avec la plantation. Il faut penser comme ça bien. Si on prend le milieu du XVIIIe siècle, voilà le dessin du British Empire, de l'Empire britannique, donc, où on a En fait, ce n'est pas du tout le point le plus élevé de l'Empire britannique. L'Empire britannique est à son plus grand en 1919. Parce que c'est la fin du 19e siècle où il y a l'occupation de l'Afrique. Mais là, c'est la situation. Donc, c'est des petits bouts ici, là. Une petite présence en Inde qui va s'étendre assez rapidement. Et très important, donc, les anti-britanniques, on dit aujourd'hui, bien sûr, les anti-anglophones, parce qu'ils ne sont plus britanniques. Les nombres par les Anglais, non, ça c'est par tous les pays, on estime à 12 millions d'Africains kidnappés et transportés sur 400 ans, jusqu'à un quart qui meurt pendant le voyage, mais aussi il y en a énormément qui meurent au tout départ, parce que bon, évidemment, on essaie de capturer vos enfants, vous êtes moyennement contents. Enfin, ça dépend des jours, mais bon. Et donc, vous vous battez, il y a beaucoup de morts dans cette processus-là. Mais plus que le produit plus que les profits de l'esclavage, le commerce des esclavages, des esclaves proprement dit, c'est les produits. Hein. C'est le sucre, c'est le tabac qui sont le plus important. Donc là, on a une photo du début du 20e de la canne à sucre. Il faut dire aussi que pendant le commerce des esclaves, il n'existait pas la betterave à sucre. En Angleterre, on cultive beaucoup de sucre maintenant, betterave à sucre. Donc il n'y avait que le canne à sucre, et donc c'était d'autant plus important sur le marché. Une image de la situation au bord du navire. Ça, c'est une image donc qui est produite en 1786 par Monsieur Close. Le dessinateur, je crois. Voilà, pas vraiment. Alors, regardons un petit peu les navires. Il y avait, c'est une situation de marché libre. Alors, chaque esclavagiste est en concurrence avec un autre pour faire plus d'argent. Et notamment, les différentes villes sont en concurrence et travaillent à l'arrache-pied pour construire de meilleurs ports pour accueillir les navires en question. Et donc là, vous voyez que Londres va réduire en importance et Bristol aussi, tandis que Liverpool, ça va monter en puissance très rapidement pendant le 18e siècle. Et chaque port fait sa publicité auprès des commerçants d'esclaves. Venez chez nous, les conditions sont mieux, etc. Alors, quelle est l'importance dans l'économie britannique de tout cela? Parce qu'une des raisons que beaucoup d'entre vous apprenez l'anglais et pas l'espagnol, c'est la relative réussite de l'Empire britannique et puis de la révolution industrielle. Et une bonne partie de cette réussite est construite sur les profits de l'esclavage. Alors, qu'est-ce qui serait passé si les Anglais, si les Britanniques ne s'étaient pas impliqués dans le commerce des esclaves? Bon, c'est l'histoire fiction, on ne peut pas vraiment savoir. Il semble quand même probable qu'il y aurait eu quand même une révolution industrielle. Il faut dire que la Grande-Bretagne avait d'autres avantages, être une île notamment, et donc pouvoir transporter les choses par eau très facilement. Mais la révolution industrielle aurait été plus tardive et moins complète. Voyons voir. Là, c'est sur le sucre. J'en ai déjà parlé. Alors, les économies de toutes des grandes îles des Antilles devenaient entièrement basées sur la production de sucre, notamment Guadeloupe et Barbade, aussi Saint-Domingue, colonie française. Alors Saint-Domingue, qui ensuite c'est Haïti, hein, est devenu en 1750 le plus grand producteur de sucre au monde. Et le Jamaïque essayait de faire concurrence. au cours du 17e et le début du 18e, donc le sucre se généralise. Au début, en Angleterre, on mettait le sucre seulement dans le thé, mais après, c'est les bonbons, les chocolats, etc. Il est important de voir qu'il ne s'agit pas d'un commerce marginal. Comme j'ai suggéré, l'argent du commerce est à construire Bristol, London et Liverpool. Et la deuxième partie essentielle, c'est que l'élite en général défendait l'esclavage. Alors, notamment l'amiral Nelson, celui qui est tout en haut de la colonne à Trafalgar Square, faisait campagne contre l'abolition. Et en général, je pense qu'on a un peu tendance, si on regarde de loin, de penser au commerce d'esclaves un peu comme aujourd'hui le commerce de l'héroïne ou de la drogue, c'est-à-dire quelque chose mené par des bandits un peu exclus de la société, par les grands criminels, etc. Absolument pas. De grandes parties de l'élite et même des classes moyennes étaient impliquées, c'est-à-dire qu'un épicier qui avait une épicerie qui marchait bien mettrait son épargne en achetant une part d'un navire d'esclaves. Ce n'était pas quelque chose de honni comme le commerce de drogue, des drogues aujourd'hui. Et quand ils ont fait l'argent, bien sûr, il faut le dépenser. Et alors, je pensais montrer deux ou trois des grandes constructions du XVIIIe siècle en Angleterre, qui sont tous, j'ai pas fait des recherches précises, mais ils sont tous liés en partie à l'argent de l'esclavage. Et alors là, on voit donc des jolies maisons à Chetel. Et voilà l'intérieur. Et ça me fait penser, j'ai oublié qui a parlé du XVIIIe siècle en Angleterre comme un mélange étrange d'élégance et barbarie. Mais ça le fait penser quelque part que, comme beaucoup de choses dans l'histoire, il y a un côté contradictoire à un développement artistique. Peut-être maintenant ça fait ringard à l'époque. Des grandes inventions et en même temps une dépendance sur un système extrêmement inhumain. Voilà Chetel, voilà un autre Wentworth, vous imaginez donc les balles du XVIIIe siècle où on commence à importer de Vienne les nouvelles danses, les nouvelles musiques, etc. Et bien sûr la cathédrale de Saint-Paul reconstruite au XVIIIe siècle après l'incendie de Londres en 1666, c'est également de l'époque et de l'époque où l'Église recevait énormément d'argent. Donc ça, c'est un peu les richesses qui étaient créées en partie par les profits de l'esclave. De notre côté, en Afrique, c'était plutôt la destruction des richesses et un des résultats de l'esclavage. Entre autres choses, c'est qu'on a parfois l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose. Ils se baladaient et puis les gens les ont kidnappés, c'est bien triste. Mais on oublie les descriptions. L'université au Mali, à Timbuktu, à la même âge, a été fondée à quelques années près, en même temps que la Sorbonne. Il y avait toute une série de richesses qui ont été richesses culturelles qui ont été détruites. Et alors, bien sûr, s'il y avait le commerce des esclaves, il y avait aussi un débat là-dessus. Hein. Les gens, de tous côtés, pensaient à justifier leur position. C'est tout à fait normal. Les sociétés humaines marchent sur les discours. Et voilà le résumé donc des arguments qui étaient utilisés par ceux qui faisaient commerce des esclaves ou qui investissaient. Ou les amis. Tout d'abord l'argument économique, donc le besoin d'une main d'œuvre pour produire du riz et du tabac en Amérique ou du sucre aux Antilles. Alors ça, c'est toute l'histoire du sud des colonies, les sud des colonies, donc la Virginie, et bien sûr la Virginie pour le tabac. C'est connu. Toute l'histoire des colonies du sud. À cette époque, il y a une grande distance entre les colonies du nord d'Amérique du Nord. New York et autour, hein, et les colonies du sud d'Amérique du Nord, la Virginie est tout autour. Et ces deux économies, tout d'abord, ils sont loin. Pour y aller, il faut prendre un bateau. On ne peut pas prendre l'autoroute, il n'était pas encore construit. Et ils ont deux économies complètement différentes. Et au nord, ça va être rapidement l'industrie, mais surtout le poisson. Et au sud, le tabac. En fait, pour le sud, ça c'est marquant. Ils sont allés à la recherche de l'or, ils ont retrouvé le tabac. Qui a fait presque qui a fait autant d'argent au fond, hein, mais avec une main d'œuvre donc importée. Deuxième argument extrêmement central, donc le racisme, tout simplement l'idée que les Africains n'étaient pas capables de réagir comme d'autres êtres humains, et donc qu'il n'y avait pas de mal à le traiter comme la nature méritée. Mais bon, il y a d'autres arguments aussi. À l'époque, les idées religieuses autrement plus influentes qu'aujourd'hui, et donc le fait que l'esclavage est présent dans la Bible et dans la plupart des références, c'est accepté, c'est pas spécialement loué, mais c'est pas dénoncé. Voilà, donc ça c'était un grand argument, hein, et il est sorti à l'église en regardant ce qu'on dit dans la Bible sur l'esclavage, et pour ceux qui étaient moins portés sur la Bible, ils pouvaient regarder les fondateurs de la civilisation en Grèce antique, en Rome antique, et ils notaient également que l'esclavage était tout à fait accepté. Les grands philosophes de l'époque en Angleterre, tels que Hobbes, Calvin et Hobbes, Hobbes et Locke, c'est pas les mêmes, acceptaient donc la légitimité de l'esclavage. Et puis, dernier argument, mais je pense qu'il y a une dernière circonstance, mais assez important, c'est qu'en Angleterre même, on ne voyait pas trop l'esclavage. C'était loin. C'était au loin. Et alors, c'était plus facile d'accepter. J'avais dit que les élites étaient très impliquées. Donc, pour vous donner juste quelques exemples, on a vu qu'en 1787, il y avait 41 membres du conseil municipal de Liverpool. Bien sûr, à cette époque, pas tous les gens de Liverpool votaient, seulement les privilégiés. Et 37 sur 41 avaient investi dans le commerce d'esclaves. Donc, on voit à quel point c'était aucunement marginal. Et ensuite, l'Église d'Angleterre lui-même possédait de grandes exploitations aux Antilles. Donc, il n'y avait pas simplement une question d'investir dans des compagnies qui faisaient commerce d'esclaves. C'était une implication directe. D'ailleurs, lors de l'abolition en 1833, j'y viendrai, l'Église et plusieurs évêques à titre individuel ont reçu une compensation financière importante. Je reviendrai sur la question compensations. Alors, les esclaves sont allés aux Antilles cultiver le sucre. Beaucoup mouraient rapidement et avaient besoin d'être remplacés. Et alors, on a importé des nouveaux. Même, il y avait des calculs savants sur quelle était la moyenne optimale de vie d'un esclavage. D'un esclave. Et donc, il y en avait qui dit, c'est pas la peine de le faire vivre pendant plus de 4-5 ans, parce que de toute façon, ils seront cassés. Il y a des conditions de travail. Déjà, c'est l'époque des conditions de travail en Angleterre extrêmement dures. Mais si on enlève l'idée que c'est des êtres humains, vous imaginez bien. Donc, on le faisait travailler toute la nuit. On le faisait travailler jusqu'à ce qu'il meure, hein, dans beaucoup de cas. Donc, travail de nuit, mais pas travail de nuit pendant 8 heures. Mais donc, lors de la récolte, plus vite que c'est rentré, mieux c'est. Les esclaves malades sur les navires, on les jetait à la mer et à l'arrivée vendus aux enchères, mais ceux qui n'étaient pas achetés, d'être handicapés ou malades, on les laissait sur place pour mourir sur place. Il y avait aussi la question des esclaves femmes. Il y avait d'innombrables enfants illégitimes de gentlemen blonds et des esclaves qui violaient. Alors la situation juridique, c'est qu'un enfant d'esclave, quelle que soit sa couleur, était automatiquement esclave. Mais parfois, ces enfants de couleur mixte étaient libérés par le maître. Cette question des enfants de blancs, ça causait beaucoup de problèmes pour l'élite. À titre d'exemple, au Jamaïque en 1760, l'Assemblée a passé une loi pour dire que c'était illégal de laisser en héritage de l'argent aux enfants des esclaves. C'est-à-dire que le père naturel d'un enfant ne pouvait pas le laisser en héritage de l'argent, parce qu'en fait les contradictions de l'être humain sont telles qu'il y avait des maîtres très attachés aux enfants qu'ils avaient eus avec des esclaves. Il y avait les lois répressives qui allaient très loin. Si un esclave frappait un homme blanc, on lui coupait la main. Et le viol était institutionnalisé. C'était souvent pour les jeunes hommes blancs, c'était une esclave le jour de ton anniversaire. Hein. C'était un peu ce genre de situation. Et donc là, je viens de dire le dernier paragraphe. Je viens de dire. Ok, bon, ça c'était la partie. Il faut dire que l'histoire de l'esclavage, comme l'histoire de la plupart des trucs, est un peu déprimant. Et alors la deuxième partie, par contre, est moins déprimant parce que c'est sur l'opposition, toutes les différents types d'opposition à l'esclavage, leurs contradictions, leurs réussites, leurs échecs, et ainsi de suite. Donc on va passer donc à l'opposition à l'esclavage et qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire. Alors le tout, oui voilà, le tout, la toute première type d'opposition, c'est celle des esclaves eux-mêmes. Et il est particulièrement important de souligner cette histoire parce qu'il y a une tradition pour la plupart du XXe siècle, de souligner excessivement les grands hommes blancs qui ont libéré les esclaves et oublier un peu qu'il y avait d'autres éléments. Ce qui n'est pas forcément à enlever du crédit à certains membres de l'élite qui ont perdu beaucoup de leurs amis, leur légitimité et leur possibilité d'avancement pour se consacrer à la lutte contre l'esclavage. N'empêche qu'il est normal de considérer que les esclaves qui se révoltaient risquaient davantage que l'anglais de bonne famille qui écrivait des pamphlets contre l'esclavage. Vous imaginez bien, personne ne leur a coupé la main aux grands abolitionnistes anglais. Alors, quelques exemples. Il y a beaucoup de révoltes où nous n'avons aucune trace. C'est-à-dire que les esclaves souvent ne savaient pas lire et écrire. Et si jamais ils avaient laissé des documents, qui les aurait conservés? Qui s'y serait intéressé. Mais nous avons quand même quelques traces et certains des plus importants, c'est au Jamaïque en 1738 où il y a une révolte des marrons. Alors c'est quoi un marron dans ce sens-là? C'est des esclaves qui se sont enfuis. Hein. C'est des esclaves qui s'enfuient dans des parties de l'île moins accessibles et qui créent le village, la communauté et réussissent à survivre. Bien sûr, il y en a qui meurent de faim aussi, hein, mais ils réussissent à survivre en tant que communauté libre. Et ça représente bien évidemment une menace à l'institution d'esclavage. Alors, quand on a assez d'armées, parce que à Londres ils veulent pas donner l'argent pour l'armée, mais bon, quand les esclavagistes ont assez d'armées, ils envoient les troupes, et 1738 est connu parce qu'il y a eu une bataille, et c'est les marrons qui ont gagné. Ce n'est pas le cas toujours, hein. Vous imaginez bien que la qualité de l'équipement était plutôt mieux du côté de l'armée britannique. Et là, vous avez, en fait, c'est dans un autre pays, mais c'est une statue en Guyane, la statue Les Marrons de la Liberté. Donc, vous voyez ce qui représente les esclaves qui se sont libérés. Un autre exemple, donc en 1752, il y avait la révolte sur le navire Marlborough. Alors, ces révoltes sur les navires, il y avait un certain nombre. Le plus souvent, ils perdaient et ils finissaient dans la mer. Hein. Mais dans ce cas-là, cet exemple précis, ils ont gagné. Par contre, ce n'est pas le moment de faire une révolte excessivement polie. Donc ils ont tué l'essentiel de l'équipage en gardant deux ou trois pour les ramener en Afrique. Et c'était, ils ont réussi à se faire ramener en Afrique comme cela. Mais je pense qu'il est impossible d'imaginer des esclaves rationnels à décider de faire une révolte pacifique sur un esclavagiste. Ça semble tout simplement de la bêtise. Pour revenir brièvement aux marrons de Jamaïque, ils étaient en face de décisions déchirantes parce qu'ils avaient réussi à survivre face aux troupes britanniques, mais c'était une menace permanente. Et alors, ils ont fini par signer un traité où les marrons se sont mis d'accord avec les autorités britanniques qui n'accepteraient plus d'esclaves qui s'enfuyaient et qui rendraient des esclaves qui essayaient d'entrer chez eux. Et c'est ça ce qu'ils ont fait pendant de longues années. Alors on voit la décision déchirante que d'un côté, ils se sont libérés, mais de d'autre côté, pour survivre, ils ont accepté de rendre d'autres esclaves qui essayaient de se libérer. Ce sont vraiment des situations où ça donne envie de vivre au XXIe siècle et pas de devoir prendre des décisions de ce genre. Alors les bonnes nouvelles, c'est que nous sommes au XXIe siècle et on va y rester. C'est un peu tôt le matin pour des horreurs, mais quand même, pas toutes les révoltes, bien sûr, sur les navires étaient réussies. En 1760, sur un autre navire qui s'appelait le Robert, la révolte a perdu et le capitaine a tué certains des esclaves et a obligé les autres esclaves à manger les cadavres des... Alors, j'arrête là avec les horreurs, mais je pense que on est obligé d'en parler quand même. J'avais dit que l'esclavage était relativement invisible en Angleterre. C'est pas tout à fait vrai. Il y avait 20 000 esclaves en 1780. Il y avait 20 000 esclaves présents sur le sol anglais. Souvent des domestiques, des esclaves domestiques qui voyageaient avec le maître antillais. Donc il y avait une précision non. N'empêche. Alors, donc, un premier élément de l'opposition à l'esclavage, des révoltes des esclaves eux-mêmes, et je vais revenir là-dessus à quelques autres exemples, même si, comme je dis, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. En Angleterre, donc pour revenir en Angleterre, il y a eu donc à partir de 1750 des oppositions, souvent de la littérature sentimentale, qui montrait des pauvres esclaves qui souffrent. Et dans ces romans, les noirs n'étaient pas montrés comme les égaux des blancs. Ça c'était un peu trop. Pour l'époque, pour les écrivains blancs, mais ils étaient montrés comme des êtres humains qui souffraient. Il y a le célèbre cas de John Newton, c'est un capitaine d'un navire du commerce des esclaves de 1748. Il se convertit vers le christianisme, donc le christianisme évangélique, et il décide que l'esclavage c'est un péché et se met à faire campagne contre. Mais les premières batailles juridiques ont lieu dans les années 1770, parce qu'en fait, il faut voir que l'élite n'a pas décidé tous ensemble de façon cohérente, on va faire un système esclavagiste. Non, ça s'est surgi ici et là, et bon, les gens ils ont investi, bon, ça les a arrangés, l'élite, etc. Mais en fait, il n'y avait pas de structure juridique, il n'y avait pas de cadre juridique. C'était pas marqué dans les lois de l'Angleterre, les droits d'un esclave, les droits d'un maître d'esclave, les droits de l'esclave, etc. Il n'y avait pas de cadre juridique. Et alors, ça permettait des batailles juridiques. Et le tout premier, c'est Somerset versus Stuart. Donc c'est devant un voilà. C'est donc là vous voyez le texte du procès verbal. The case of James Somerset, a Negro, on a habeas corpus. Donc, habeas corpus, c'est une procédure qu'on suit quand quelqu'un a été kidnappé ou emprisonné illégalement, et on demande au tribunal, habeas corpus, est-ce que vous avez le corps? Le corps, pas le cadavre, le corps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un esclave s'était enfui d'un maître et avait réussi à se construire un peu une vie en Angleterre. Et quelques années plus tard, le maître le voit et le fait kidnapper et mettre sur un navire pour le ramener chez lui. Et un avocat qui était contre l'esclavage va au tribunal pour demander un habeas corpus, c'est-à-dire pour dire qu'il n'a pas le droit de le kidnapper. Et ça fait tous les journaux, hein, débat général, et le juge, un petit peu contre les attentes, personne s'y attendait, décide qu'il n'y a pas de base dans la loi juridique pour l'esclavage sur le sol de l'Angleterre, et alors il déclare que cet esclave doit être libéré. Grande, petite victoire quelque part, mais grande victoire aussi, et ça rendait plus très difficile ensuite pour les maîtres d'esclaves de venir avec les esclaves en Angleterre, parce que si l'esclave s'enfuyait, souvent ils s'enfuyaient pas parce qu'ils connaissaient personne, ils n'avaient pas de quoi manger en dehors de la maison, mais bon, s'ils s'enfuyaient, ils pouvaient, le maître ne pouvait pas le ramener. Donc une première victoire juridique qui était mené par, je crois bien que c'était mené par Granville Sharp. Donc là, on a Granville Sharp ici, donc un avocat qui a travaillé toute sa vie, en fait, dans le mouvement. Et à partir de là, il va y avoir les premiers mouvements organisés. Donc d'abord des batailles juridiques, donc qui concernent un individu, bien sûr, sont des effets politiques, mais ce n'est pas une campagne politique, c'est une campagne juridique pour essayer de gagner de ce juge une décision. Ensuite, il va y avoir donc les mouvements politiques, et j'y viens dans un instant, et voici, nous avons donc des images de deux des dirigeants, donc à droite, l'avocat Granville Sharp, et à gauche, donc, Olaudo Equiano, qui était un esclave libéré, qui était un des dirigeants du mouvement britannique, et bien sûr avec l'avantage, quand les gens disaient dans les meetings pour l'abolition, les gens disaient: oui, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez, moi mon père il a vécu aux Antilles. On connaît ce genre de discours, et alors on ne pouvait pas le dire à Equiano qui avait été esclave. Alors il avait un argument, il avait aussi, il faut dire, un autre argument. Quand il allait à Glasgow, à Édimbourg, à Dublin, à Manchester, les gens, ils remplissaient les salles, en partie parce que la moitié n'avait jamais vu un noir de leur vie entière. Il y avait un côté spectacle qui jouait en le faveur. Je vais revenir à ce garçon tout à l'heure parce que c'est très, très intéressant. Donc, c'est 1787 qui voit les tout premiers mouvements organisés contre le commerce des esclaves. C'est la première étape. Et alors, dès 1783, il y avait une pétition présentée à Parlement contre le commerce des esclaves. Et il a été présenté par les Quakers, donc les Quakers, on dit en français. C'est une petite religion. Alors souvent on dit un secte, mais bon, on a bien compris, mes croyances c'est une religion et les vôtres c'est un secte, c'est un mot un peu négatif. En tout cas, c'est un mouvement religieux qui existe encore aujourd'hui, plus dans les pays anglophones qu'ailleurs, et qui est très connu pour être impliqué dans des questions sociales et dans le pacifisme. D'ailleurs, je me rappelle, en 79, j'étais dans une petite ville en Angleterre et je suis entré dans l'église, pas vraiment une église des Quakers, et j'ai vu qu'ils avaient une série de pamphlets. Il y avait une pamphlet « Pourquoi il faut défendre les homosexuels contre l'oppression ?» Et alors, vous ne vous rendez pas compte, mais dans une église, en 77, c'était impossible. C'était un moment où on était bien loin d'aujourd'hui. Donc, c'est un exemple. Les Quakers, ils ont toujours eu des idées très, très progressistes. Et le centre de la théologie, c'est qu'il y a quelque chose de Dieu dans chacun. C'est ça un peu l'idée. D'ailleurs, ils ont pas de sacrements, ils ont pas de messe ou de cérémonie, ils ont presque rien de ce qui est normalement religieux, mais ils sont là. Et c'est eux qui ont lancé donc des pétitions. Des petites pétitions de quelques dizaines de personnes. Mais il y a eu donc ensuite donc la fondation de la the Society for Effecting the Abolition of the African Slave Trade. Et ici vous avez le procès verbal. At a meeting held for the purpose of taking into consideration, it was considered that it was both impolitic and unjust, resolved that Granville Shopper, etc., etc. Et alors, bon, voilà, je crois qu'ils étaient 12, se sont rencontrés dans un pub à Londres, et c'est bon. Et si on abolissait l'esclavage, et si vous aviez posé la question aux premiers 100 personnes qui passaient devant la porte du pub, ils auraient dit, mais ils sont cinglés. Ils sont cinglés. C'est quelque chose qui fait des milliards de livres tous les ans. 37 des 41 membres du conseil municipal de Liverpool, ils sont impliqués, et ils sont 12. À dire qu'ils vont abolir, oui, c'est ça, des doux rêveurs, si vous voulez. Neuf des 12 fondateurs étaient des Quakers. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ils ont tout de suite mis en place un compte Twitter et une page Facebook. Mais non, ils n'ont pas pu faire ça, alors ils ont dû travailler autrement. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit qu'il faut beaucoup plus d'informations, il faut des informations précises. Si on va réussir à convaincre les députés, à convaincre le Parlement, il nous faut des chiffres, pas simplement quelques histoires ici-là, il nous faut des chiffres. Et c'est Thomas Clarkson qui va s'occuper d'une énorme enquête sur les conditions du commerce des esclaves. Alors Thomas Clarkson, il arrive dans le mouvement, je crois ne pas me tromper à me dire qu'il arrive dans le mouvement d'une manière un petit peu étrange, et c'est que son professeur, il étudie le latin, les classiques, les lettres classiques, et son professeur, il y a un grand concours pour un prix de la rédaction. Chaque année, bien sûr, une rédaction en latin, ça va sans dire. Et son professeur qui était contre l'esclavage a mis comme question la légitimité de l'esclavage. Je ne peux pas vous le dire en latin. Et Thomas Clarkson a gagné le prix de la rédaction pour. C'est plus facile de se mettre à militer de nos jours, hein, on n'a pas besoin d'apprendre le latin d'abord. Et il a gagné le prix de la rédaction qui a été traduit en anglais. Est publié, et c'est comme ça qu'il s'est lancé. Et bon, vous voyez que déjà qu'il existe ce genre d'image, on voit bien que son père n'était pas ouvrier chez Renault, quoi. Et alors, donc lui il s'y met. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser les interviews de 20 000 marins. Il va visiter 320 navires et il va emprunter ou prendre tous les équipements, les chaînes, les instruments de torture. Et il va publier en 1787 donc son livre, A Summary View of the Slave Trade and of the Probable Consequences of its Abolition. Bon, c'est même pas très difficile de traduire. Donc, un résumé concernant le commerce des esclaves et les conséquences probables, avec un S, de son abolition. Bien sûr, ça, c'est une édition moderne. Première édition, donc 1787. Donc, première chose de l'information. Deuxième chose, l'organisation. Ils se sont mis à mettre en place un réseau de contacts locaux. Des comités locaux partout dans le pays, et Thomas Clarkson va aller d'un comité à l'autre à donner les paquets de tracts et donner des conseils et de l'encouragement à des centaines de militants de base. À cette époque, il y a 10 à 15 000 Africains à Londres, et un certain nombre sont actifs au sein de la campagne. Thomas Cooper, Robert Mandeville, William Green, par exemple. Un des premiers groupes constitué à exprimer leur opposition à l'esclavage, ce sont les métallos de Sheffield, donc les ouvriers métallurgistes de Sheffield. Et en 1789, il y a une pétition de 769 métallurgistes de Sheffield qui envoie cette pétition au Parlement contre le commerce des esclaves. Et le texte, ça vaut le déplacement, je ne l'ai pas là, parce qu'ils disent « Nous avons bien compris que l'abolition du commerce des esclaves risque de nuire à notre métier. » Parce que la fabrication des choses pour les navires, ils avaient bien compris. Mais nous considérons que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et ça va être un constant, pas universel, mais un constant de ce mouvement, c'est que ça va être plus facile de convaincre des ouvriers industriels d'être contre l'esclavage que de convaincre des membres d'élite. Alors, en partie parce qu'ils n'ont rien à investir, alors il n'y a pas de profit dans l'histoire. Je pense que c'est peut-être l'exemple le plus important. Quelques années plus tard, donc, il y a une autre pétition de 8000 noms qui est envoyée de Sheffield. La même année, donc, 1787, il y a la publication, oui, du premier livre par un ancien esclave. C'est pas ce monsieur-là, c'est Ottobo Cuguano qui écrit un livre qui s'appelle Les pensées et les sentiments sur le vil et affreux commerce de l'esclavage. Et dans ce livre, il insiste que le devoir moral de l'esclave, c'est la révolte. Vous imaginez bien que ça plaisait pas à l'élite à l'époque. Plus connu depuis, donc c'est la première édition en 1789 de ce livre, donc The Interesting Narrative of the Life of Alaudo Equiano, the African. Voilà, et donc là on a le et lui il va donc raconter sa vie. C'est un best-seller. Alors notez bien le titre, The Interesting Narrative. Il fait sa propre publicité dans le titre. C'était un best-seller à l'époque. Il a été réédité 14 fois assez rapidement. Alors, je vous raconte rapidement sa vie. Lui, il est né à Essaka, qui est dans le royaume à l'époque de Bénin. Il est né en 1745. Son père, un des aînés de la province, qui faisait un peu office de magistrat. Et il se fait kidnapper quand il a 11 ans, et après 6 mois d'emprisonnement, on l'amène vers la côte où, pour la première fois, il rencontre donc des hommes blancs. Il n'en avait jamais vu. Il est vendu à des esclavagistes et il est amené à Barbados, à Barbade, et ensuite à Virginie. Où il est acheté par un dirigeant de la marine anglaise, bon, un capitaine de la marine anglaise, Henri Pascal, qui lui permet de travailler à côté, avoir un peu son propre argent, et il réussit en 1766 à acheter sa liberté. C'est-à-dire cette possibilité qui n'est pas encadrée, hein, c'est à chaque maître d'esclave de décider... etc. Et donc il va travailler avec la Society for the Abolition of the Slave Trade, et mais pas seulement. Moi je trouvais fascinant de voir qu'il était également actif dans d'autres mouvements politiques. Par exemple, le London Correspondence Society, qui est une association qui fait campagne pour le suffrage universel. Alors c'est vrai que c'est un peu impressionnant. On aurait pensé que ça lui suffisait de faire campagne contre l'esclavage, déjà en ayant toute la douleur de devoir raconter ses erreurs à chaque meeting. Vraiment, c'est assez impressionnant. Il fait partie d'autres un peu plus. Il meurt en 1797, mais avant ça, il fait partie d'un autre projet d'époque, qui est de rassembler des anciens esclaves, des esclaves libérés, et former une colonie en Afrique, à Sierra Leone, d'esclaves, ex-esclaves, qui puissent retrouver l'Afrique. Ça marche pas très bien. C'est comme comme les migrants du monde entier, de l'histoire entière, rentrer chez soi, c'est plus compliqué que prévu. Que ce soit les Irlandais, les Juifs, les Irakiens, autres, ou les Maghrébins aussi. Je connais des amis qui, à la retraite, sont repartis en Algérie, d'où ils sont partis à 20 ans, mais ils supportaient pas. Ça a tellement changé. Rentrer chez soi, c'est compliqué. Ok, donc voilà Equiano. Et donc, revenons donc en 1787, le mouvement se met en marche. Et c'est, je pense que c'est le premier mouvement à choisir un logo. Et voilà, ici nous avons le logo. Am I not a man and a brother? Ne suis-je pas un homme et donc votre frère? Pour traduire un peu librement. Et alors... vous voyez bien donc l'esclave enchaîné à genoux qui supplie pour avoir la liberté. Donc on voit assez rapidement que ce n'est pas Malcolm X, hein, c'est pas Black Power, hein, c'est plutôt s'il vous plaît monsieur libérez-moi. N'empêche que c'était le premier, il faisait avec les moyens du bord. Et c'est le logo qui est devenu le symbole qu'il a reproduit partout. Ils avaient des céramistes dans le mouvement qui faisaient en série des assiettes qui à l'époque dans les classes moyennes c'était un objet très important. Hein. Ça remplaçait la page Facebook Kakoba pour le like. J'avais oublié de dire que l'association a pris une grande décision au départ et ils se sont dit on va faire campagne contre le commerce des esclaves. On ne va pas faire campagne directement contre l'esclavage parce que c'est trop grand, on a moins de chances. Et alors ça, ça pose une question qui est centrale au développement de tout ce qui est mouvement social. Qu'est-ce qu'un compromis acceptable? Parce que bien sûr, on fait des compromis pour faire n'importe quelle action militante, mais qu'est-ce qu'un compromis acceptable? Est-ce que c'était acceptable de dire, bon, ne parlons pas pour l'instant de l'esclavage en tant que tel, faisons campagne contre le commerce des esclaves, et on peut bien imaginer des gens à l'époque, non, c'est une question de principe de faire une campagne contre l'esclavage en tant que tel. Ce sont des questions très difficiles à fixer de tout temps. Un peu plus tard, il y avait la version... féminin, donc du logo. Am I not a woman and a sister? Je ne le traduis pas, je vous fais confiance cette fois, d'accord. Am I not a woman and a sister? Et comme je vous avais dit, il y avait fabrication de beaucoup d'autres objets. Et là, en fait, c'est un sucrier. Et vous voyez bien que le sucrier est marqué East India Sugar, not made by slaves. Donc, East India Sugar, donc je ne sais pas exactement d'où d'ailleurs, mais pas des Antilles et pas fait par des esclaves. Donc, on imagine bien que dans peut-être les petits commerçants, les artisans, ils ont un sucrier, les pauvres n'en ont sans doute pas. Hein, et ils sortent le sucrier et on imagine la belle-mère disant oh oui, mais c'est bien ça, toi, on ne peut même pas prendre du sucre sans vos idées politiques partout. Hein, on imagine bien l'engueulade comme on peut avoir de nos jours si on rentre avec trop de badges politiques chez sa grand-mère. D'autres moyens aussi. Donc là, c'est un peu le discours. Ce diapo, ça montre le discours concernant le boycott. Si 6 familles utilisent le sucre des Indes orientales, c'est-à-dire pas fait par des esclaves, à la place du sucre des Antilles, un esclave de moins est requis. Assurément, libérer un créateur humain de cet état d'esclavage et de misère par un sacrifice si petit, ça vaut l'attention de chacun. Alors, je ne prends pas à mon compte les chiffres, les statistiques, les mouvements sont naturellement tentés d'exagérer tel ou tel chiffre. C'est tout ce qui est plus humain. Mais on voit l'argument qui est mis en avant du boycott et donc d'une action qui a l'air individuelle et qui est individuelle d'un certain point de vue. Mais l'idée, c'est que multiplier, et bien sûr aussi le sucrier, ça produit des discussions politiques. C'est-à-dire que c'est pas seulement que moi je prends pas de sucre fait par les esclaves, mais je l'affiche. Et chaque fois que je donne du sucre à mes amis, j'essaie de les encourager. Et alors ils disent, ah oui, mais c'est beaucoup plus cher. Oh, pas vraiment, hein, c'est un petit peu plus cher, mais pas trop. Oh, bon, je vais y réfléchir. Hein. Voilà. Autre moyen d'action de l'époque, donc voilà, collection de poèmes au sujet de l'abolition de l'esclavage. Oui, c'est une période de brochures, de pamphlets, de petits textes, donc vendus sur le marché, peut-être lus en petits cercles, parce que beaucoup de gens ne savent pas lire. Je n'ai pas l'impression que le mouvement avait un journal régulier, genre mensuel ou trimestriel. Ça, c'est plus tard, à partir du 19e siècle. Un mouvement sans un journal, c'est un demi-mouvement quelque part, parce qu'un journal, ça organise les gens. Hein. C'est-à-dire, je vous le vends tous les mois, et le troisième mois, je vais, vous voulez pas en prendre deux pour en vendre à un copain? Donc je le teste, je vois s'il est vraiment d'accord ou non. Je pense pas qu'ils avaient ça. Un des grands défauts d'une vision naïve de l'abolition, c'est l'idée que ça s'est avancé un peu automatiquement. Voilà, de plus en plus de gens ont vu que c'était une bonne idée d'abolir l'esclavage, et donc ça s'est fait. C'est radicalement faux. L'histoire ne marche pas comme ça, ce serait trop facile. Et ça a été un grand conflit, et il y a eu énormément de publications par ceux qui voulaient défendre l'esclavage, défendre le commerce des esclaves, qui voyaient que c'était menacé politiquement, même si c'était commencé par un petit groupe de 12 Quakers. Quand même, ça montait un peu, et alors, et les gens, ils étaient de bons, les défenseurs de l'esclavage, c'était des bons chrétiens qui se sentaient insultés de l'idée qu'on leur accuse d'être cruel, inhumain, tandis que c'était des gens qui aidaient les pauvres, qui faisaient partie de tout ça. Et alors, ils ont pas du tout été satisfaits de profiter de l'esclavage, il fallait aussi le défendre politiquement. Pas seulement à partir du moment où le mouvement devenait un vrai menace, mais même avant, pour une question de légitimité. Et alors, il y a d'innombrables brochures qui défendent, et peut-être le plus célèbre, c'est celui d'un certain Gordon Turnbull, qui écrivait une brochure qui s'appelait Apology for Negro Slavery, donc littéralement une apologie de l'esclavage des nègres. Et ici nous avons un autre, c'est Observations of the Slave Trade concernant la manière dont on traite les nègres dans les colonies britanniques aux Antilles. Voilà, donc publié en Jamaïque, hein, parmi les. Celui d'avant, Turnbull, dans le texte, il écrit: le commerce des esclaves a sauvé les esclaves d'un destin bien pire. Et il explique comment. Il prétend que dans ces régions de l'Afrique, le sacrifice humain était tellement courant que voilà qu'ils étaient beaucoup mieux en étant esclaves. Et il continue ailleurs, il décrit l'arrivée des navires d'esclaves. Dès que le navire arrive, le capitaine ou son assistant va chercher de l'alimentation, des fruits et des légumes de tout type qui sont amenés pour les esclaves. Certains esclaves ont le droit d'aller sur la côte, et souvent ils rencontrent des gens de leur propre pays qui ont la même langue, qui ont tous l'air contents et heureux. C'est très touchant de voir comment ils ils retrouvent leur compatriote, et les compatriotes leur expliquent que ce n'est pas nécessaire d'avoir peur des hommes blancs qui sont très bien, qui vont être très bien nourris, et que le travail va être très facile. Je continue pas, mais j'ai des pages comme ça, moyennement convaincant, si vous voulez savoir. Alors, il y en a d'autres, donc pour des brochures pour et des brochures contre. Mais moi, j'ai trouvé le plus intéressant, c'est les brochures qui disaient, qui n'étaient ni pour ni contre. Je trouve très très intéressant. Il y a un certain nombre de brochures qui disent, oh là là, mais tous ces extrémistes qui disent que l'esclavage c'est génial ou qu'il faut abolir l'esclavage. Un peu de modération, s'il vous plaît. Et il explique comment la position raisonnable, c'est d'être ni absolument pour, ni absolument contre. La vérité se trouve au milieu. Et donc j'en ai un ici qui explique sur la nécessité d'instruire les esclaves sur le christianisme et de les baptiser, et contre l'idée que les esclaves baptisés cessent d'être esclaves. Donc il ne veut pas libérer les esclaves, mais il veut qu'ils soient baptisés. Alors ça, c'est une grande bataille à l'époque, parce que baptiser des esclaves, c'est dire que c'est des êtres humains qui peuvent être sauvés, qui sont valables dans les yeux de Dieu, etc. Ce qui ne va pas très très bien avec l'idée que finalement c'est presque des animaux. Bon, j'en ai toute une autre série. Il y a une brochure là. Pourquoi l'esclavage n'est pas interdit par la Bible, 1773. Une défense des esclavagistes, en fait, on dit une défense des maîtres de plantation antillaises. Et un autre, la preuve que la Bible interdit l'esclavage. Donc vous imaginez que le côté religieux très 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 important là. De chaque côté, on essaie de trouver des citations de la Bible pour se défendre. Alors, pour ceux qui étaient contre l'esclavage, ils citent beaucoup Saint Paul, qui dit que Dieu a fait d'un seul sang toutes les nations d'hommes. Voilà, c'est un peu tout. Alors, Saint Paul a dit ça, et c'était un argument. Moi, je pense que ça, c'est l'essentiel là. Et alors, toutes ces activités, pétitions, brochures, boycotts, etc., mènent à deux grandes campagnes de pétitions. Le premier, c'est en 1788, où il y a plus de 100 pétitions contre le commerce des esclaves qui sont présentées à la Chambre des communes dans l'espace de 3 mois. Alors, ça devient une campagne d'une certaine taille, même s'il n'est pas évident quel va être le levier qui le permet d'effectuer le changement. C'est 1788, et l'année suivante, on a évidemment la Révolution française. Alors, qu'est-ce que la Révolution française vient faire dans l'histoire de l'abolition de l'esclavage? Eh bien, beaucoup de choses. Je pense qu'on a un problème en France avec la Révolution française, parce qu'on nous en parle depuis la maternelle, et à la fin on a vaguement compris qu'ils jouaient au tennis et puis ils ont juré un truc et puis ils décidaient de couper des têtes aux gens, quoi. Mais à l'époque, la France s'était considérée en Europe comme l'essence, la réaction la plus barbare des régimes, la plus loin du progrès et de l'humanisme. Et la Révolution française a inspiré le monde entier. C'est un commentateur anglais, je crois, qui a dit il y a eu deux règnes de terreur. Un sous Robespierre de quelques mois, et l'autre sous la monarchie, qui a duré 300-400 ans. Ça, c'est un peu l'opinion des progressistes en Angleterre. Il y a un poète anglais qui a écrit de la Révolution française, « C'était le bonheur même à cette époque d'être vivant, et être jeune, c'était le paradis. » Donc c'était un peu mai 68 fois 10. J'avais 8 ans en 68, à moi je ne m'y connais pas non plus. Et donc voilà, on a là l'image de la Bastille. J'ai choisi cette image parce que je n'avais pas vraiment vu la Bastille, et c'est vrai que le prendre et le détruire, ça doit encourager les masses quand même. Hein. Ça a l'air. On a les souvenirs. Ah oui, mon grand oncle a été mis, il est mort là-dedans. Hein. Le symbolisme est énorme. Et alors, cette révolution donne l'impression que tout est possible. On a quelques récits des esclaves en Amérique et surtout aux Antilles françaises qui entendent parler de la révolution et dans la discussion c'est les blancs en France ont renversé le maître, nous aussi on peut le faire. Qu'il y a un lien politique qui va beaucoup plus loin que les connaissances individuelles. Et un des résultats et une des carrières qui va surplomber les années suivantes, mais qui part de la Révolution française, c'est celle de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, donc, de Saint-Domingue. Et là, j'ai donné ce sont des histoires très compliquées, hein, comme souvent. Mais là, j'ai donné quelques dates pour vous donner une idée de qui c'était. Il participe à la révolte en 1791 des esclaves à Saint-Domingue, une révolte encouragée politiquement par la Révolution française, même s'il n'y avait pas forcément des liens directs entre les penseurs en France et les autres. Et en 1794, l'Assemblée révolutionnaire en France abolit l'esclavage en France et dans les colonies françaises. C'est un grand moment de la Révolution française où le président de l'Assemblée fait parler, j'ai oublié qui est parlé, mais qui fait parler un représentant des Noirs au sujet de l'esclavage. Et puis le président dit à l'Assemblée, je ne vais pas vous faire l'insulte de proposer un débat. Et il vote à l'unanimité l'abolition de l'esclavage. C'est un sacré moment. Et donc, après ça, Toussaint Louverture, qui commence à avoir des capacités militaires certaines, s'allie avec les Français contre les Espagnols dans la région, parce qu'il y a différents colonisateurs. Mais évidemment, puisque la France a aboli l'esclavage, il se met plutôt de ce côté-là. Et il est un peu obligé de se mettre d'un côté à un autre, parce que c'est eux qui ont les armes. Il est nommé capitaine général de Saint-Domingue en 1801 par Napoléon. Mais après, ça se gâte parce que Napoléon, en 1802, légalise à nouveau l'esclavage et envoie une flotte pour renverser Toussaint. Toussaint est arrêté, mais l'armée de Napoléon est défaite. Hein. Les gagnants, ce sont les ex-esclaves de Saint-Domingue, et ils vont pouvoir proclamer la République de Haïti en 1804, la première décolonisation dans le monde, en fait. Et alors, tout ça, c'est pas directement lié à l'Angleterre, sauf que ça c'est dans l'air. Et l'élite anglaise est en permanence consciente que la possibilité de révolte des esclaves très puissants est une possibilité. C'est-à-dire que Toussaint Louverture montre que c'est possible pour les esclaves de gagner et l'élite et l'esclavagisme ne va jamais oublier ça. Il va être un peu apeuré en permanence à partir de ce moment-là. Pour revenir donc en Angleterre, on a toutes ces pétitions présentées au Parlement, et c'est William Wilberforce qui présente et qui va défendre au sein du Parlement pendant de longues années la nécessité de l'abolition du commerce des esclaves, et il va présenter pour la première fois un projet de loi pour l'abolition du commerce des esclaves en 1791, et ça va être rejeté par 163 voix contre 88. Alors, ça semble un échec quelque part, et pourtant, ils avaient un tiers, hein, c'était une institution séculaire, ils avaient quand même réussi à convaincre un tiers. Alors, pourquoi les 88, les questions intéressantes dans l'histoire, ça commence généralement, pourquoi? Et celle qui m'intéresse, c'est pourquoi les 88 ont voté contre? Parce qu'on sait pourquoi les 163 ont voté pour. Et alors, bon, il y a des chrétiens qui ont été convaincus que c'est péché, que c'est pas halal, que c'est haram, qu'on n'a pas le droit. Il y a ceux qui pensent que économiquement l'esclavage, le commerce des esclaves, ça commence à être problématique. Et il y a ceux qui votent contre parce qu'ils détestent les maîtres entiers esclavagistes pour d'autres raisons. Alors ça, c'est la partie que j'aime bien, c'est une partie de l'opposition est motivée simplement pour d'autres raisons. Pas par rapport à l'esclavage, ils ont d'autres conflits politiques avec ce groupe qui sont les propriétaires secrets des Antilles. Il y a toujours une partie structurée, une partie accidentelle dans chaque conflit dans l'histoire. J'aime bien ce côté. Alors, voilà, donc premier projet de loi, bon, ils n'ont pas réussi, ça donne lieu donc à une deuxième campagne en 1792, plus ambitieux, 519 pétitions sont présentées au Parlement, c'est le plus grand nombre qui avait jamais été soumis au Parlement sur un sujet. Le soutien le plus enthousiaste pour l'abolition vient du nord industriel, de la classe ouvrière industrielle, mais il y avait des pétitions de tous les comtés du pays. En 1792, la Chambre des communes a voté par 230 voix contre 80 que le commerce devait être graduellement aboli. Et alors le mot graduellement, bien sûr, est très important, c'est-à-dire qu'il y avait un vote principe là-dedans. Mais bon, en même temps, bien sûr, il y avait des abolitions, oui, ils ont mis graduellement, ça veut dire pas, ça veut dire jamais, quoi. Mais ça c'était une importante comme victoire symbolique de gagner ça dans la Chambre des communs. Malheureusement pour eux, la Chambre des Lords a tué le projet de loi. Vous vous rappelez, ça doit passer les deux chambres. Voilà. Et c'était un coup dur pour le mouvement abolitionniste. Et comme dans tout mouvement, il y en a qui disent, bon, si c'est comme ça, je laisse tomber le militantisme. De toute façon, ma salle de bain a besoin d'être repeinte. Etc. Comme de toute époque. Aussi, ceux qui défendaient l'esclavage s'amusaient bien. Alors ici, vous avez un dessin d'époque contre Wilberforce. Donc Wilberforce, celui qui avait proposé le projet de loi. Et alors, ça c'est Gilray. Ça s'appelle « Comment on se console quand le projet de loi est rejeté ?» Et vous voyez là qu'il y a Wilberforce, donc un membre de l'élite, bien respecté par ailleurs, et il se console avec la drogue, l'alcool et des femmes noires, parce que, bien sûr, c'est un dessin raciste, hein, mais c'est une arme politique, parce que c'est dénigrer Wilberforce, qui en fait, on comprend dans ce dessin, se bat pour les Noirs simplement à cause de ses goûts sexuels. C'est ça un peu le message. Donc c'est un très méchant dessin politique de l'époque. Et c'est pour ça que je dis que autant il me semble que justice de remettre au centre de l'histoire les révoltes des esclaves, ça n'enlève rien au mérite des membres de l'élite qui ont pris de gros risques avec leur réputation, etc. Il y avait un autre problème en 1792, à part le fait que la Chambre des Lords a bloqué la législation, et c'est la Révolution française. Parce que la Révolution française a terrorisé, s'il a inspiré les progressistes, il a terrifié les élites anglaises, et alors, dans toute une série de domaines, pendant 10-15 ans, c'était plus difficile de gagner des réformes parce que l'élite avait peur que tout ce qui était lâché, ça pourrait permettre donc une révolte plus large. Il y avait beaucoup de gens dans le peuple qui pensaient qu'une révolution est impossible en Angleterre, mais l'élite pensait que c'était possible. Et alors ils avaient très très peur. Donc et donc l'année suivante, la Chambre des communes a refusé de revoter sur la question des esclaves. À cette époque, dans les années 1790, donc la révolte de Toussaint Louverture encourageait le mouvement. Voilà, donc il y a cette situation un petit peu contradictoire. On va en avance un petit peu au 19e siècle et j'avais dit donc tout ça, l'ouverture est arrêtée et qui va je pense qu'il va mourir en prison en France d'ailleurs, ou en île quelque une île française. Et un des grands poètes anglais, Wordsworth, écrit un poème en son honneur, mais j'ai pas pu trouver de traduction. Alors je vous signale simplement son existence. La guerre contre la France a aidé un petit peu le mouvement d'une façon un peu surprenante. Les Anglais ont gagné de nouveaux territoires aux Antilles et Trinidad notamment, et ayant peur de la concurrence, une partie des propriétaires sucriers défendaient avec moins d'enthousiasme le commerce des esclaves. Ils commençaient à avoir l'impression, nous avons nos esclaves, on ferait mieux si les Français ne pouvaient plus en importer, on en fait l'abolition. Et effectivement, une fois l'abolition votée en Angleterre, la marine anglaise va servir à empêcher les autres pays de faire le commerce des esclaves. Nouvelle campagne donc en 1804 et un nouveau projet de loi. Encore une fois, il faut pas voir défiler trop rapidement les années, hein. C'est-à-dire que c'est 10 ans plus tard, c'est-à-dire des milliers de gens qui chaque année pendant 10 ans ont commencé à repréparer la campagne en déprimant parce que certains amis ont laissé tomber. Et en se réjouissant parce que d'autres jeunes ont rejoint la campagne, etc. 1805, un projet de loi qui empêche le commerce des esclaves dans des nouveaux territoires acquis par l'Empire est voté au Parlement. Et l'année prochaine, donc en 1806, il y a le vote de l'abolition. On dit toujours 1807, c'est parce qu'il y a une période entre le vote et l'application de la loi. Mais donc la date qu'on dit, c'est toujours après 1807, le commerce des esclaves était illégal pour les sujets britanniques. Et il était effectivement, donc là, je remonte un petit peu parce que là, il y a une plaque commémorative pour William Wilberforce, qui faisait partie d'un groupe particulier des chrétiens qui s'appelait le Clapham Sect et qui a eu droit à une plaque bleue. La réussite donc du projet de loi de 1806-7 était aidée par le fait que le nouveau Premier ministre, Lord Granville, soutenait l'abolition du commerce des esclaves. Je pense que ça c'est un mauvais. Ah oui. Donc en 1807, le Parlement interdit le commerce des esclaves au sein de l'Empire britannique. Et voilà donc Granville. 200 ans plus tard, on a produit cette pièce commémorative. Donc en 2007, voilà. Et donc vous voyez donc la chaîne. Rompu. An Act for the Abolition of the Slave Trade, 1807. Il y a à Paris, dans le 17e, un monument commémoratif de la première abolition des esclaves de 1794. Et c'est également une grande chaîne. Et il y a eu une cérémonie en février dernier, j'y étais avec Manuel Valls pour commémorer cela. Voilà, donc on a la première partie, c'est-à-dire que il est illégal. Bien sûr, il y avait quelques problèmes d'application. L'abolition fut appliquée lentement. Le capitaine d'un navire devait payer une amende de 100 livres. C'était beaucoup d'argent, hein. Il faut imaginer, je ne sais pas, 5000 euros ou quelque chose comme ça. Par esclave présent sur son bateau, mais restait l'inhumanité. Souvent, ils jetaient des esclaves à la mer, à l'approche des autorités. Et l'Angleterre, maintenant que c'était aboli pour les Anglais, la marine anglaise et le gouvernement britannique commençaient à utiliser cette situation pour convaincre ou empêcher d'autres pays de faire le commerce des esclaves, en partie parce qu'ils ne voulaient pas de concurrence. Hein. Et cette partie de l'histoire, comment la marine anglaise et le gouvernement anglais a essayé d'empêcher le commerce des esclaves par la suite, ça c'est la partie de l'histoire qui est soulignée par l'establishment anglais, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent, oui d'accord, il y a eu une implication britannique dans le commerce, mais regardez tout ce qu'on a fait pour l'abolition, quoi. Et un historien, ironiquement, a dit, on dirait que la Grande-Bretagne a inventé le commerce des esclaves simplement pour pouvoir l'abolir. C'est pour se moquer un peu de cela. Mais il y a la suite, donc il s'avère donc que c'est plus difficile que prévu. C'est-à-dire que une bonne partie des abolitionnistes considéraient qu'une fois le commerce des esclaves terminé, l'esclavage ça allait un peu décliner et disparaître tout seul. C'était un peu optimiste. Ça marchait pas comme ça. Alors sans doute les esclaves étaient mieux traités simplement parce que s'ils mouraient, on pouvait plus en acheter d'autres. Hein. Mais n'empêche que voilà que c'était une difficulté. Mais il s'avérait assez rapidement que c'était que ça n'allait pas disparaître comme ça. Et une série de mouvements commençait donc pendant longtemps, pendant 10 ans, il se passe rien, il se passe pas grand chose. Mais après, une série d'organisations essaient de s'occuper de ce problème. Et alors un des nouveaux acteurs, c'est une série d'associations des femmes contre l'esclavage qui furent fondées dans tout le pays. Ladies Societies for the Relief of Negro Slaves. Alors the relief donc pour le meilleur traitement, si vous voulez. Donc pas directement le titre des organisations, c'est pas directement pour l'abolition de l'esclavage, mais pour un meilleur traitement, pour aider. Pour venir à l'aide des esclaves. Et voilà l'histoire des femmes contre l'esclavage. Alors la première question qu'on se pose, c'est pourquoi des associations séparées ? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est relativement rare. Si on était énervé contre la loi du travail, on disait bon, on va fonder deux associations, un pour les hommes contre la loi du travail et un pour les femmes contre la loi du travail. On nous regarderait un peu de travers. Hein. Il faut dire que à l'époque, la situation est un peu différente. En pratique, il était extrêmement difficile d'avoir une association mixte. C'est-à-dire que dans tout ce qui était les classes un peu respectables, donc pas forcément des riches mais pas des pauvres, c'était inconcevable que des femmes auraient l'autorisation du mari, du père, de la mère, etc. pour se rendre à des réunions mixtes. Et alors le choix qui se posait à l'époque, c'était plutôt ou bien les femmes ont fait rien, ou bien on fonde une association séparée. Alors, ça ramène encore la question de qu'est-ce qui est un compromis acceptable. Hein? Est-ce que c'est il n'y a pas de raison pour la séparation, alors on insiste pour avoir une association mixte, ou est-ce que des associations séparées, c'est acceptable. En tout cas, la décision qu'ils ont prise, c'était pour faire séparer, et vous allez voir, ça va avoir un grand rôle dans la suite. C'est en 1823 que Wilberforce et Clarkson, donc qui ne sont pas encore fatigués, si peut-être un peu, mais pas trop fatigués pour continuer, font une nouvelle organisation for the mitigation and the gradual abolition of slavery. Donc pour l'amélioration, c'est pas le bon mot, hein, amélioration, l'amélioration des conditions et l'abolition graduelle de l'esclavage. Alors, pourquoi graduelle? Pour deux raisons. D'abord parce qu'une partie d'entre eux pensait bon, si on demande l'abolition immédiate, on l'aura pas. Alors autant demander quelque chose qui risque de gagner un peu de soutien. Et d'autres, qui, comme Wilberforce, qui pensaient que les esclaves ne pouvaient pas être libérés immédiatement parce qu'ils ne s'en sortiraient pas. Ils ne s'en sortiraient pas parce qu'ils n'ont pas de moyens de gagner leur vie, ou etc. Pour diverses raisons, il était convaincu qu'il ne fallait pas militer pour l'abolition immédiate. Alors, quels étaient les arguments qu'ils utilisaient? Eh bien, à la fois des arguments humanitaires, mais aussi des arguments qui tenaient au fait que... excusez-moi, j'enlève ce paragraphe, c'était au mauvais endroit. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient, cette association pour l'amélioration des conditions? Pour les esclaves, le droit de se marier, le droit à la propriété privée, le droit à étudier la Bible et pas de travail le dimanche. Alors... j'imagine bien que si vous essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui est esclave, aujourd'hui, vous n'allez pas vous dire, oh là, ce qui est dur d'être esclave, c'est qu'elle n'a pas le droit d'étudier la Bible. N'empêche que ces droits sont extrêmement importants. Le droit de se marier, c'est-à-dire la reconnaissance que, comme tout le monde, le mariage, le couple, l'amour est important pour les esclaves. Et donc, aller vers l'idée qu'on ne peut pas séparer des couples mariés quand on revend. Il n'y a plus de commerce des esclaves, hein, alors ça ne va pas appliquer. Le droit à la propriété privée, donc de pouvoir éventuellement travailler à côté, qui était permis par certaines... Le droit à étudier la Bible, encore une fois en partie, parce que c'est les chrétiens qui considèrent que c'est dans la Bible qu'on trouve le salut spirituel, psychologique et réel après la mort, hein. Mais aussi parce que c'est une reconnaissance que ce sont des êtres humains comme les autres. Et il fera le travail du dimanche parce qu'on est fatigué. Donc ça va continuer. Et c'est à ce moment-là que le rôle des associations féminines revient en avant de la scène. C'est une des dirigeantes, Elizabeth Herrick, qui publiait cette brochure, Immediate Not Gradual Abolition. Alors, elle a perdu beaucoup d'amis, comme ça, vous imaginez bien, les dirigeants, on a fait tout ce travail pour monter cette association, on mettait graduel, comme ça, on avait tout le monde d'accord, maintenant, on a tant de groupes, ça a eu une certaine réussite, et alors maintenant, vous vous attaquez à la direction en sortant cette brochure immédiate, donc abolition immédiate et pas graduelle, et donc un titre très polémique. Et c'est le réseau des associations féminines qui va s'organiser autour de cette revendication. Alors pendant toute une période, les associations féminines sont bien plus radicales que les associations d'hommes. Voici, vous avez une affiche donc pour un meeting 1830 pour l'abolition de l'esclavage, Abolition of Colonial Slavery. Notez bien qu'ils n'ont pas mis immédiate ou graduelle en général. Et je crois bien qu'en dessous, c'est la liste de tous ceux qui vont parler. À l'époque, c'est vrai que quand ils faisaient des meetings, 5h, 6h, il faut dire aussi, personne n'était pressé de rentrer chez lui pour regarder Sherlock. Il n'y avait pas de concurrence. Donc le meeting, c'était l'événement de la semaine. Et alors, les gens, 6 heures de meeting, même si on vous faisait les cours magistraux de 6 heures, ça vous plairait? C'est un peu compliqué, hein, c'est un peu long. Hein. Voilà donc. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, l'annonce est mise. Donc, vous voyez que c'est à midi, hein, mercredi midi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont le temps. Et que c'est annoncé par le constable. Donc, c'est annoncé par les autorités locaux. Voilà, ça a été demandé par une série de personnes et ça a été annoncé donc officiellement par les autorités locales. On voit que c'est une campagne qui n'est plus marginale, mais qui a une vraie présence, y compris, c'est un petit peu comme si on demandait au maire d'utiliser la salle de fête et que le meeting soit introduit par le maire. Ça fait beaucoup plus officiel et tout le public, ça, ah oui, c'est pas, quand même pas n'importe qui va nous parler. Alors pendant cette période donc entre 1807 et 1833, donc c'est la période où il est illégal de commerce des esclaves était illégal par les sujets britanniques, mais l'esclavage existe encore. Et il y a tous ces différents mouvements. Les mouvements vont commencer en 1823, mais pendant cette période, il y a encore des révoltes très connues. Bon, il y a des petites révoltes qui sont souvent oubliées, mais il y a des révoltes très connues. Il y a celui-ci dont l'anniversaire était la semaine dernière, les 200 ans, c'était la semaine dernière, la révolte de Boussa en 1816 à Barbados, planifiée lors des bals pour esclaves. C'est pour ça que dans certaines des Antilles, on essaie d'interdire les bals et la musique pour les esclaves. Parce que les esclaves, n'étant pas bêtes, ont profité, impliqué à la fois des esclaves et des mulattos qui avaient réussi à avoir leur liberté. Et ils ont commencé, ils se sont dit, ce qu'il faut faire, c'est détruire les récoltes, la récolte de sucre, comme ça. Donc ils n'avaient pas peur, hein, parce que... il a dû sans doute y avoir des gens pour dire, oui, mais comme ça, il n'y aurait pas d'argent, il n'y aurait rien à bouffer. Mais ils ont dit non, il faut détruire cette récolte qu'on nous oblige à produire. Ils ont réussi à détruire 20% du sucre de l'île et donc de montrer leur colère. Bien évidemment, le côté armement, du point de vue militaire, c'était impossible. Du point de vue militaire, ça allait forcément échouer. Du point de vue politique, c'est autre chose. Parce que ça montrait au monde entier. Ce qui était possible, et alors ils ne sont pas morts pour rien. Il y avait 176 esclaves morts pendant la révolte et 214 exécutés par la suite pour donner l'exemple, pour faire peur aux autres. Et là, à Barbade, on dit en français Barbade, c'est ça? En tout cas, à Barbados, une statue donc de Boussa de cette révolte. Est-ce que j'ai d'autres informations? J'ai une autre révolte. Je vous parle que des plus grandes. Une autre révolte. Donc c'est 1831 en Jamaïque. Et c'est connu sous le nom de la révolte de Sam Sharp. Alors bon, on a l'habitude lors des événements historiques de donner le nom d'un individu parce que ça fait plus facile pour en parler. Mais bon, bien sûr, il y avait beaucoup d'autres gens appliqués. Là, c'est grève générale prévue à partir du jour de Noël 1831. Malheureusement, les troupes étaient déjà au courant avant. On ne sait pas qui c'est qui a capté. Pendant la révolte, il y a eu 14 blancs et 500 esclaves noirs qui ont perdu la vie. Et par la suite, dans la plupart, après un type de procès, une exécution par la suite, et Sam Sharp lui-même fut pendu donc le 23 mai. Donc ils ont pris le temps pour l'effet politique. Alors à l'origine, Sam Sharp avait l'idée d'une grève générale sans violence. Mais bon, mais ça s'est pas passé. Il est connu, Sam Sharp est connu pour la citation « Je préfère mourir pendu ici que vivre dans l'esclavage. » Ça faisait peur à l'élite. Alors, il y a quelques réformes en 1830. Bien sûr, ça c'est avant celle-ci. Mais cette ambiance de révolte, ça faisait peur à l'élite. En 1830, donc, un certain nombre de réformes, le droit de se marier, le droit d'aller à l'église et de se marier à l'Église. Alors, après la révolte de Sam Sharpe, donc voilà le Sam Sharpe commémoré sur billet de banque au Jamaïque, et voilà une statue. Il y a aussi l'université des enseignants qui est nommée pour lui. C'est en 1830 que l'association en Angleterre, on revient en Angleterre, l'association dont on parlait tout à l'heure, s'est mis d'accord pour arrêter de revendiquer l'abolition graduelle. Alors le mot graduel va disparaître. Et un projet de loi est présenté au Parlement qui demande l'émancipation immédiate des enfants nés des esclaves. Donc c'était l'idée que, encore une fois, un compromis, c'est qu'on on laisse les esclaves, mais tout nouvel enfant né maintenant ne peut plus être esclave. C'est ça le projet de loi. Encore une fois, on imagine bien qu'ils ont dû s'engueuler sur si c'était acceptable de demander cela ou non. En tout cas, en 1831, le mouvement a remonté en puissance. Il avait à ce moment 1200 sections locales qui organisaient des meetings et des brochures, comme la brochure, par exemple, « Trois mois à Jamaïque », qui a vendu 200 000 en un seul mois. En 1833, l'association féminine, the Glasgow Ladies Anti-Slavery Society, a eu 1800 femmes à ces meetings. À ce moment-là, introduit, les gens qui connaissent l'histoire de l'Angleterre ne seront pas surpris, intervient un autre changement, la réforme de 1832, c'est-à-dire une réforme du suffrage qui double le nombre d'hommes en Angleterre qui ont le droit de vote. Alors je pense que ça passe de 7% à 14% de la population, quelque chose comme ça. Donc c'est pas la grande réforme démocratique, mais ça change le rapport de force et le nouveau Parlement n'est pas aussi dépendant des intérêts sucriers et autres. Donc le nouveau Parlement avait clairement une sympathie avec l'abolition, et puis surtout le cabinet, le gouvernement était d'accord. Et alors il y a eu cet changement. La loi sur l'abolition de l'esclavage fut députée pendant 3 mois, donc ça n'allait pas de soi, vous voyez, il y avait quand même 3 mois de débat, et puis voté en 1833. Les propriétaires des esclaves furent compensés financièrement par le gouvernement britannique. Le montant du dédommagement était le plus grand paiement fait par un gouvernement, pour quelque raison que ce soit, de 1833 à 2008, équivalent moderne, autour de 25 milliards d'euros pour compenser, pas les esclaves, mais les maîtres d'esclaves. Alors l'abolition fut appliquée graduellement. La plupart des esclaves furent obligés de devenir apprenti sans salaire pendant 4 ou 6 ans selon le type d'esclave. Alors ça, c'était appliqué de façon variée. Il y a eu des révoltes dans certaines îles où ils ont pu gagner une libération immédiate, mais dans d'autres îles, ils ont effectivement attendu quelques années. Vous voyez là la fête, parce que l'émancipation est venue enfin. Il manquait pas de quand on est impérialiste, il faut une bonne réserve d'esbrouf. Et là on voit la gratitude des esclaves qui reçoivent la liberté des mains de Britannia. C'est joliment dessiné. On voit la Britannia, vous voyez. On voit bien que c'est une gentille. En Angleterre, donc, la campagne continue contre ce système d'apprentissage. Englishman, voilà, donc une affiche en couleur. Englishman, Negro apprenticeship is proved to be another name for slavery. Sign without delay the petition. Donc la campagne continue. Enfin, donc après les quelques années prévues, En fait, après 4 ans, en 1838, donc, l'apprentissage était aboli par le Parlement. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a la compensation qui est votée. Les apprentis avaient quand même plus de droits que les esclaves. Il y avait de grandes grèves à Trinidad et à Guyana. Et il y avait une montée des artisans noirs indépendants qui avaient réussi à acheter la liberté. Et il commençait à avoir des écoles pour les enfants d'esclaves, ce qui n'existait pas avant. Alors, ce n'est pas tout à fait fini, parce qu'après 1833, il y a encore Thomas Clarkson, il est encore pas fatigué. Il y a 6 ans après, il se repose un peu quand même, il y a l'établissement d'une autre association pour l'abolition mondiale. Donc, British and Foreign Anti-Slavery Society, qui est fondée par Joseph Sturge, Thomas Clarkson et Thomas Brookson. Mais bien évidemment, en Angleterre, ça ne pouvait être une cause aussi centrale à l'esprit des Anglais. Ce n'est pas une campagne qui va avoir 1200 sections à travers le pays, etc. L'association, d'ailleurs, organise un congrès international à Londres en 1840, présidé par le prince Albert, époux de la reine Victoria. Parce que maintenant, bien sûr, que la campagne demande que d'autres pays abolissent l'esclavage, l'establishment n'a plus peur, et alors le prince Albert va présider ce congrès, et le voilà, la Anti-Slavery Convention, une peinture qui le présente. La Grande-Bretagne voulait obliger les autres pays à suivre son exemple, en grande partie pour des raisons économiques, et la marine anglaise s'en occupait. Dans d'autres parties de l'Empire britannique, ça prenait plus de temps. La vente des esclaves fut interdite en Inde en 1843, mais l'esclavage était légal jusqu'en 1860. Après, l'abolitionnisme officiel des gouvernements n'avait pas toujours le même type de motivation, et le besoin d'éliminer l'esclavage était utilisé comme excuse pour annexer des parties de l'Afrique et les intégrer dans l'Empire britannique. Et voilà les exemples du Ghana et de la Nigeria. Alors, c'est un peu la fin de l'histoire, mais je voulais finir avec 2 ou 3 diapos qui montrent un peu l'actualité de la question. Parce qu'on voit là, tout d'abord en 2002, Campaigners Demand Slavery Compensation, des militants pour des réparations de l'esclavage ont en tête de traîner en justice le gouvernement britannique pour les obliger de payer la dette africaine comme des excuses pour leur participation dans le commerce des esclaves. Voilà, d'un côté. Et puis, vous voyez, en 2014, donc là en haut à gauche, tout récemment, l'histoire que le Royaume-Uni résiste à l'idée de payer des réparations pour les injustices et les atrocités du commerce des esclaves. Donc, c'est un argument qui continue. Donc, il y a l'argument économique qui dit que, en fait, la domination occidentale de l'Afrique a laissé tellement de traces économiques qu'il serait normal qu'il y ait une compensation. Et puis, il y a l'argument politique aussi, hein, bien sûr. Et voilà, c'est tout, mais il y a un peu de temps pour des questions. Merci de votre attention pour quand même, ce n'est pas 6 heures, mais quand même, c'était 1h15, ce n'est pas rien. Est-ce qu'il y a des questions ?